Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher révérend Père, cher Père, chers messieurs les abbés, chers frères, bien chers fidèles, et vous, chers séminaristes, qui allez entrer dans la cléricature ou recevoir les ordres mineurs, en cette fête du grand docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, si honoré dans ce couvent dominicain et que l'Église a constitué patron des séminaires. Au cours de la retraite préparatoire à cette belle cérémonie, vous avez longuement médité toute la signification de tous ces degrés successifs par lesquels vous approchez chaque année de l'autel du sacrifice. Saint Thomas explique que les ordres, le diaconat, le sous-diaconat et les ordres mineurs peuvent être dits d'institutions divines et nécessaires pour l'exercice du sacerdoce. La plupart de ces ordres, vous le savez, ont été éliminés par l'Église post-conciliaire. Mais dans les Actes des apôtres, au chapitre 6, les apôtres estiment que ces ordres inférieurs au sacerdoce sont nécessaires pour l'exercice de la fonction sacerdotale. Les ordres majeurs et mineurs font donc vraiment partie du sacerdoce. Ils sont tout orientés vers le sacerdoce et ne font qu'un avec le sacrement de l'ordre. Et d'ailleurs, les grâces que vous recevez en cette cérémonie vous préparent aux fonctions et vous seront donc utiles tout au long de votre vie. Les ordres de portier pour assurer que la décence règne dans l'Église, de lecteur, d'exorciste, d'acolyte. Le sacerdoce n'est pas autre chose que pouvoir offrir le sacrifice du Fils de Dieu au Père éternel. Pouvoir transformer dans le corps et le sang du Verbe incarné la substance du pain et du vin pour la rémission des péchés. Rémission, satisfaction, expiation des péchés. Expression bannie du vocabulaire des théologiens modernes et même des livres du professeur Ratzinger, repris textuellement dans l'ouvrage collectif de 14 évêques français qui disent la foi de l'Église post-conciliaire, naturellement. Car cette nouvelle doctrine s'oppose diamétralement à la doctrine chrétienne du catéchisme que les prêtres de ma génération ont appris sur les bancs de leurs écoles catholiques pendant des années. Mais comme l'avouent ces évêques, l'homme moderne, à travers ses théologiens, comme le professeur Ratzinger, se taille un credo sur mesure, mis au goût du jour par le concile de l'aggiornamento, selon l'expression du pape Jean XXIII. Et pourtant, l'apôtre Saint Jude, frère de Saint Jacques, écrit dans son épître « Bien-aimé, je vous exhorte à combattre pour la doctrine de la foi, transmise aux chrétiens une fois pour toutes ». c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Car, dit saint Jude, et cela vaut pour cette église post-conciliaire, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont il a été écrit depuis longtemps qu'ils encourent la damnation, hommes impies qui changent la grâce de notre Dieu en licence, astres errants auxquels d'épaisses ténèbres sont réservées pour l'éternité, comme Sodome et Gomorre qui subissent la peine d'un feu éternel. En vous revêtant du surplis, l'évêque implore le Seigneur de faire de vous des hommes nouveaux, que le Seigneur te revête de l'homme nouveau, qui, selon Dieu, est créé dans la justice et la sainteté de la vérité, c'est-à-dire de la foi. Cette lumière de la vérité est celle de la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils éternel du Père, qu'il a envoyé sur la terre pour nous sauver. Saint Jean nous le révèle, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est-à-dire, la vérité et la grâce sont apparues sur la terre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et les ténèbres de l'erreur et du péché l'ont refusé, les ont refusés, et les ont haïs et persécutés. La parole de Dieu, le Verbe, était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Le monde, par lui, a été créé. Tous les prophètes avaient annoncé sa venue. Mais, lors de sa visite en ce monde, le monde, les hommes, n'ont pas voulu le reconnaître. Il vint chez lui et les siens n'ont pas voulu le recevoir. Ils l'ont même crucifié. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'ils aimaient la lumière de la vérité, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés d'une race, d'un peuple, fut-il élu, d'une descendance humaine, naturelle. Ils sont nés de Dieu, d'une naissance surnaturelle, par le don de la foi que Dieu offre à tous les hommes de bonne volonté. Nicodème, membre du Sanhédrin, aimait la lumière de la vérité. Maître, dit-il, s'adressant à notre Seigneur, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu comme docteur, c'est-à-dire pour nous enseigner la vérité, car personne, aucun homme, ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est pas avec lui. Notre Seigneur lui répondit, en vérité, je te le dis. C'est donc la première vérité, la plus importante, pour entrer dans la vie surnaturelle, pour recevoir le don de la foi et le salut par le sacrement de baptême, qui est le sacrement de la foi. En vérité, je vous le dis, nul ne naît de nouveau. Nul ne naît à la vie éternelle. S'il ne n'est pas de nouveau et ne peut donc voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, nul, s'il ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, par la foi, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire être sauvé. Car ce qui est né de la chair, selon la nature, déchu par le péché originel, est chair, chair du vieil homme. Et ce qui est né de l'esprit, de Dieu, de la foi, de la grâce, est esprit, esprit de l'homme nouveau, racheté par la croix, et qui appartient désormais à l'ordre surnaturel. C'est l'homme nouveau destiné à la vie éternelle. Quiconque est né de l'esprit, de la grâce, entend la voix de l'esprit, du Saint-Esprit, qui lui communique la vérité par la foi. Et notre Seigneur dévoile à Nicodème le plan éternel de Dieu sur l'histoire. Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, le Verbe incarné, qui est dans le ciel. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert sur un poteau, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix. Afin que tout homme qui croit en lui, par conséquent nécessité de la foi en sa divinité, ne périsse point dans le péché et dans l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, dit notre Seigneur, c'est connaître par la foi le Père éternel et celui qu'il a envoyé pour le salut du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Telle sera donc votre mission, chers séminaristes, chers frères, baptiser et transmettre la doctrine du Père, la foi, la vérité, transmise par notre Seigneur, puis par les apôtres et par 260 papes au cours de 20 siècles, fidèlement, sans altération, sans adultération, sans évolution, sans trahison. Cette doctrine est éternelle, comme Dieu, en qui il n'y a pas ombre de mutation, de changement, puisqu'il est la perfection infinie. Ce qui est éternel est ce qu'il y a de plus actuel, de plus moderne. Le Christ, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles, toujours le même. Or, disait Saint Jean d'Arc, c'est tout un du Christ et de l'Église. L'Église ne change pas. La doctrine du Christ ne change pas, pas plus que le Christ. Saint-Père, idem, c'est toujours la même doctrine. En vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront à la fin des temps. Mais mes paroles ne passeront point, ma doctrine ne passera pas. Pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne passera. Donc, pas d'aggiornamento, pas de mise au goût du jour, pas d'évolution. Seul celui qui demeurera fidèle à la doctrine de la foi jusqu'au bout, ou jusqu'à la mort, comme les centaines de milliers de martyrs de tous les siècles, seuls ceux-là seront sauvés. Celui qui ne me reconnaîtra pas devant les hommes, moi je ne le reconnaîtrai pas devant le Père. Reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Que penser alors de ces terribles paroles qui nous viennent du haut de la pyramide à Rome? Je crois en Dieu, mais pour moi, un Dieu catholique n'existe pas. Or, le Dieu catholique, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la Sainte Trinité. Aujourd'hui, donc, plus que jamais, la lumière luit dans les ténèbres. Nous pouvons dire, comme les pèlerins d'Emmaüs, « Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur, car il se fait tard et le ciel s'assombrit. Le soleil de la vérité, de la foi, est éclipsé par l'hérésie. » L'hérésie, longtemps répandue, condamnée par les papes, mais infiltrée dans l'Église par les ennemis de la vérité, surtout l'hérésie luthérienne, s'est emparée de l'esprit des plus hautes autorités de la hiérarchie ecclésiastique. Celle-ci persécute les défenseurs de la foi. Elle devient toute puissante et tyrannique. L'hérésie règne partout, et surtout à Rome. Or, le meilleur moyen de déchristianiser l'Europe, c'est de la protestantiser. Et nous avons vu, malheureusement, celui qui détient la plus haute autorité, se rendre chez Luther pour la grande réconciliation avec le protestantisme. C'était d'ailleurs le but du Concile Vatican II et de la Nouvelle Messe, l'œcuménisme, la réconciliation en premier lieu avec les protestants, puis avec toutes les religions. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de déchristianiser et de détruire l'Europe chrétienne, eh bien, c'est de l'islamiser. Et donc, le complot des ennemis du Christ ouvre les portes à l'invasion musulmane. Avant que l'Église ne sombre complètement, quatre cardinaux et quelques autres, des évêques et des prêtres, osent enfin s'opposer publiquement à la plus haute autorité. Devant cette obstination apparente de l'Église à se détruire elle-même, le pape Paul VI parlait déjà de l'autodestruction de l'Église. Non pas après le Concile, comme il le dit, mais en réalité à cause du Concile, évidemment, sans vouloir admettre que ce sont eux qui ont la plus haute responsabilité dans cette autodestruction. Il y a bien longtemps, Saint Basile écrivait déjà « L'Église a une forte tendance à se détruire ». Le Seigneur a-t-il donc abandonné son Église? La dernière heure est-elle donc venue? Et la dernière destruction arrive-t-elle à son terme? Alors que l'homme de péché, le fils de perdition, l'antéchrist, l'adversaire et tous les antichrists de toutes les époques, comme le disait déjà Saint Jean, s'élèvent contre tout ce qui est Dieu et sacré. Ces paroles de Saint Basile ont été écrites il y a 1600 ans. Saint Basile n'est pas pour autant tombé dans le millénarisme. Mais, comme on le voit, l'Église, depuis le début, a subi de très graves crises. Des ennemis du Christ infiltrés dans l'Église pour la détruire. Saint Basile écrivait à Saint Athanase, l'immortel, telle est la signification de son nom. L'évêque excommunié par le pape, sous la pression des hérétiques, à cause de sa fidélité à la tradition, à la foi, mais canonisé par la suite, et qui devient naturellement le patron de ceux qui, au cours des siècles, se sont vus dans la triste nécessité de résister à l'autorité ecclésiastique pour obéir à la foi, pour rester fidèle à la doctrine de notre Seigneur. À son tour, saint Athanase écrivait « Ne vous résignez pas à de si grands crimes contre la foi. N'acceptez pas que l'Église devienne la proie des hérétiques. Sinon, voici qu'à bref délai, la foi de l'Église et ses lois, sa morale, s'effondrent. Vous devriez brûler d'une indignation plus grande contre ces malfaiteurs. L'ordre ecclésiastique et la foi de l'Église s'effondrent sous vos yeux. Rien de tel n'a jamais été entrepris contre l'Église. Depuis le jour où notre Seigneur Jésus-Christ donna à ses disciples l'ordre de convertir le monde entier. Par ses paroles, enseignez tous les peuples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Athanase a illustré ces instructions de Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Dans l'Église, il n'y a aucune autorité contre la vérité, contre la foi, aucune obéissance, par conséquent, contre la foi, contre la tradition. Saint Paul affirme que les apôtres n'ont aucune autorité pour diminuer la foi des fidèles et leur morale, et qu'ils s'ils prétendent, par un abus d'autorité, imposer un nouvel évangile, une nouvelle religion, eh bien les fidèles doivent leur résister. Car s'il y a contradiction entre l'autorité des supérieurs et l'autorité de Dieu, l'autorité de la foi, eh bien on doit choisir d'obéir à l'évangile. Même si l'autorité prétend utiliser des lois qui ont été créées pour la défense de la foi, pour la vie de l'Église, eh bien, utiliser ces lois pour persécuter, pour détruire ceux qui veulent rester fidèles à la foi de leur baptême, à notre Seigneur Jésus-Christ. Que la très sainte Vierge Marie, donc, et saint Thomas d'Aquin vous gardent, chers séminaristes, nous gardent tous dans la sainteté de la vérité, de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.